Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis content de vous retrouver avec Jean pour cette nouvelle émission qui commence donc ce début d'année 2018. Année 2018 qui commence déjà plutôt très très fortement. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de plusieurs sujets dans cette émission. Donc, je vais accueillir de suite Jean. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Parfaitement. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous.
Oui, bonsoir Jean. On va rentrer quand même dans le sujet parce que là, je pense qu'on a quand même pas mal de choses à parler. Et une heure, ça passe quand même très, très vite. Déjà, on va commencer parce que tu voulais parler un petit peu. C'est un peu un rappel aussi parce qu'on a déjà parlé d'autres émissions. Mais c'était parler du pardon parce que c'est un sujet qui te tient vraiment très à cœur et qu'il est important un petit peu de temps en temps de marteler un petit peu dans les mémoires, de savoir ce que c'est.
Oui, effectivement, le pardon, on en parle beaucoup et c'est ce qu'on enseigne avec mon épouse depuis déjà un peu plus de 10 ans, et même un peu plus. Quand on parle de Ho'oponopono, on parle de pardon. Maintenant, depuis quelques années, on a étudié un cours en miracle et en fait, ça se résume dans un seul mot, c'est le pardon. Et c'est ce qu'on enseigne maintenant. D'ailleurs, on emploie dans nos enseignements, dans les conférences qu'on fait, le sujet, en fait, se résume à parler que du pardon, quoi. Alors, bien sûr que le pardon, c'est pas le pardon qu'on nous a enseigné, le pardon que nous connaissons, ce pardon fortement teinté de l'éducation judéo-chrétienne, ce pardon où il y a un coupable et une victime, bien sûr, c'est pas ce pardon-là dont nous voulons parler. Le pardon dont nous voulons parler, c'est un pardon qui se situe à un autre niveau. Voilà, à un niveau plus élevé, un niveau spirituel, parce que le pardon, il est à ce niveau-là. Nous, le pardon, en fait, c'est ce qu'on dit avec Marie-Lisa, on dit que nous vivons dans le pardon. On tente, on essaye de vivre le mieux qu'on peut, du matin au soir, dans le pardon. Donc, il ne s'agit pas de pardonner à quelqu'un, il s'agit de vivre dans le pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans le pardon ? Ben, c'est vivre en prenant la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Ça, c'est le plus important, le plus difficile aussi, de considérer que tout ce qui nous arrive, tout, pas une partie et puis pas une autre partie, non, tout, c'est-à-dire les rencontres que nous faisons, les événements que nous avons, les maladies que nous avons, enfin tout ce qui nous concerne, c'est d'en prendre la responsabilité. Et là, ça fait un bien fou, parce que d'un coup, on sort définitivement de ce rôle de victime dans lequel on nous a bien enfoncé depuis qu'on est tout petit et bien avant. Et ce rôle de victime, c'est la religion, bien sûr, qui nous y a mis, puisqu'on nous a expliqué que nous étions des pécheurs et que le péché existe. Alors tout ça, bien sûr, à partir de là, quand on est bien imprégné de ces croyances-là, la vie est commence à être difficile, quoi. C'est-à-dire que nous sommes coupables, voilà. Eh bien, ce qu'il faut apprendre, c'est que la culpabilité, en fait, n'existe pas. Et le rôle de victime, eh bien, on peut s'en débarrasser définitivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre la responsabilité de tout. C'est-à-dire comprendre que tout ce qui nous arrive, eh bien, ce sont nos mémoires qui ont créé ça. Voilà. Donc, moi, maintenant, en aucun cas, je peux accuser quelqu'un si... je sais pas, moi, si quelqu'un passe au feu rouge et qui m'abîme la voiture, mon premier réflexe, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il m'est arrivé ça? Quel est le sens de ce qui m'arrive? Quelles sont ces mémoires qui ont créé cela et qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre? Je me pose aussitôt cette question et en aucun cas, il me vient l'idée d'accuser quelqu'un. Alors ça, Je comprends que c'est pas facile. Je comprends que ce soit pas facile au premier abord de. C'est un apprentissage. Il faut y être tous les jours, voilà. Donc prendre la responsabilité, c'est un premier pas. Et c'est vivre dans le pardon. Puis ensuite, le deuxième point qui est très important, c'est accepter. Hein, accepter ce qui arrive. Et arrêter de se battre. Arrêter de vouloir se battre contre ce qu'on a, contre ce qui arrive. Intenter un procès, je trouve ça maintenant quelque chose qui est complètement surdimensionné. Faire un procès à quelqu'un. Et on entend souvent, quand on a une maladie, il faut se battre. Mais non, il ne faut pas se battre. On n'a pas à se battre. Je n'ai jamais vu, moi, dans une guerre, qu'il y ait un vainqueur. Hein. Il y a toujours des vaincus. Hein. Tout le monde a à se perdre. Tout le monde a à perdre quand on se bat. Donc, on ne peut pas gagner quand on se bat. La première chose à faire, c'est d'accepter. Et dans la maladie, bien sûr, l'acceptation, c'est primordial. Et quand on accepte à 100%, quand on accepte vraiment sa maladie, eh bien, on commence à entamer un pas vers la guérison. C'est à partir de là qu'on peut commencer à considérer qu'on se dirige vers la guérison. C'est dans l'acceptation. Mais là, dans la non-acceptation et le combat, là, on n'obtient rien du tout. Rien du tout. Donc, prise de responsabilité, acceptation. Et là, on est complètement dans le pardon. Après, il y a d'autres points, mais qui viennent ensuite, c'est le lâcher-prise, bien sûr. Lâcher prise totale, ce qui n'est pas facile non plus, mais ça découle des deux premiers, hein, le lâcher prise. En fait, c'est facile quand on a pris la responsabilité et qu'on est dans l'acceptation, il est plus facile de lâcher prise. Hein. Donc, il faut commencer par la prise de responsabilité. Et puis, il y a un quatrième point, c'est le jugement. Donc, arrêter de juger, le non-jugement. Hein. Quand on commence à juger, en fait, on s'aperçoit que c'est... On se juge soi-même, parce que les autres sont notre propre reflet. Donc, bien sûr, c'est inutile d'aller vouloir changer les autres, inutile de porter des jugements, parce que, en fait, c'est pas mal aussi de juger, parce que si vous jugez quelqu'un, d'ailleurs, c'est un exercice que je propose très souvent, de noter sur un papier tous les jugements qu'on porte à l'encontre de tous ceux qui sont autour de nous, même du gouvernement, enfin bref, de tous les jugements qu'on peut porter, on les note. Pour s'apercevoir, en fait, que ces jugements, c'est vers nous que nous les poserons, hein, ces jugements. Parce que les autres sont tout simplement notre propre reflet, hein, rien de plus. Et donc, vouloir pardonner à autrui, c'est tout simplement une illusion. Voilà. C'est tout simplement une illusion. Il faut arriver à ce niveau de conscience pour pouvoir pardonner. Pour pouvoir non pas pardonner, mais pour vivre dans le pardon. Et vivre dans le pardon, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que la vie est différente, on vit plus de la même manière, on n'est plus dans le combat, on est beaucoup moins malade, c'est extraordinaire. Quand on vit dans le pardon, et quand on arrive à le vivre à 100%, alors vraiment, je peux assurer qu'on ne peut plus être malade. Il n'y a aucune maladie qui tient. Le pardon étant... Alors, j'ai pas mal étudié les maladies, notamment les cancers, grâce au docteur Sabat, avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années. Et lui, il m'a ouvert les yeux, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et ce que j'ai compris par la suite, à travers mes patients, à travers beaucoup d'expériences que j'ai eues, et d'observations, c'est que le pardon, eh bien, peut s'appliquer à toutes les maladies quasiment. Et quand on applique bien le pardon, ben, la maladie peut partir. C'est extraordinaire, non ?
Oui, c'est clair.
Et oui, pour plaisanter, souvent, dans les stages, je dis, oh là là, quand est-ce qu'arrivera ce jour où dans les pharmacies, on ne vendra que des dragées, des pilules, des fioles, où il y aura écrit pardon dessus, hein ? Oui. Et oui, parce que vraiment, hein, ça j'y crois fermement, ben je l'ai expérimenté, je l'observe depuis déjà des années. Quand on est dans le pardon, on peut guérir de toute maladie. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Hein. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Oui, voilà le pardon. Et bien sûr, là, sur Facebook, j'ai mis quelques petites. Ces derniers jours, j'ai mis. Ça m'avait plu de relancer un petit peu et de reparler du pardon. Parce que l'époque que nous vivons, et je dirais même particulièrement cette année-là que nous avons abordée, là, on aura bien besoin de vivre dans le pardon. Bien besoin de vivre dans le pardon. Ouais. Et d'ailleurs, si on remarque, on voit bien que tous les enseignants spirituels, qu'ils soient d'enseignement particulier ou d'un autre, enfin, chaque chemin est tout bon, quoi. En fait, ils parlent toujours que du pardon. Ils arrivent tous à parler du pardon. C'est vraiment le point de convergence de tous les chemins spirituels, hein, le pardon. Et comme je le disais j'ai écrit comme ça quelques tout petits textes, je sais pas si tu les as vus, Cédric, sur Facebook, par exemple,
j'en ai vu quelques-uns, dont le dernier, là, où j'avais rappelé pour l'émission, justement, qu'on pouvait en parler, et un petit peu drainer aussi les gens qui viennent aussi poser leurs questions, hein, parce que le but, on en parle, ils l'écoutent en podcast, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que s'ils posent leurs questions, on peut leur répondre en direct. C'est une forme d'interactivité qui est quand même plutôt sympathique, hein.
Bien sûr. Voilà. Écoutez, attendons, s'il y a des questions qui arrivent,
voilà.
Donc, je serai très heureux. Un coup, je dis, pardonner est une décision. Et c'est effectivement, pardonner ne dépend pas d'autrui, ne dépend de personne à l'extérieur de soi. C'est juste une décision, voilà, une simple décision. Je décide de pardonner ou je décide de ne pas pardonner, c'est tout simple. C'est un choix personnel, ça dépend de personne. Mais quand on sait le faire, ça... Et j'ai dit, c'est pas si simple, ça, c'est pas en 5 minutes. Mais quand on arrive à le faire, on voit que notre vie, comme je l'avais écrit, est guidée par l'amour, tout simplement. C'est vraiment une décision. Ouais. Et qu'est-ce qui nous empêche de pardonner? C'est ce que j'avais marqué aussi, je suis en train de lire ce que j'avais marqué, des fois je l'oublie. Eh bien, c'est notre ego. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il joue sa survie. L'ego, si on est dans le pardon, l'ego, ben, il n'existe plus. Il se fait tout petit et il n'intervient plus dans notre vie. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est l'ego qui nous fait vouloir nous battre. C'est toujours l'ego. L'ego qui veut toujours intervenir, qui veut toujours se mêler de tout, qui met son grain de sel dans tout. Mais si on est dans le pardon, alors l'ego, ben, il s'efface, il devient tout petit. C'est pas qu'il va disparaître, il sera là, mais il va plus intervenir du tout. Parce que le pardon efface toutes les peurs. Quand on est dans le pardon, on a effacé toutes nos peurs. Et l'ego, lui, il ne vit que par les peurs. C'est l'ego égale peur. Toutes nos peurs que nous avons, c'est l'ego qui est en action. Et vous savez pourquoi l'ego a beaucoup peur? Ça, je l'ai dit souvent, ça.
Oui, effectivement.
Parce que l'ego a une date de péremption. Il sait qu'il va mourir un jour. Et quand je parle de l'ego, c'est le mental. L'ego étant... construction du mental, mais c'est la même énergie, hein, en quelque sorte. Ben, le mental ou l'ego savent qu'ils ont une date de péremption, comme le lait, comme le fromage, comme tout aliment. Par contre, ils ne savent pas la date. C'est pourquoi ils ont beaucoup peur. Ils ne savent pas la date de la mort. Et donc, ils ont plein de peur. Le mental est bourré de peur, l'ego est bourré de peur. Et c'est ce qui fait que si on se laisse guider par l'ego et le mental, toute la vie, on est toujours dans les maladies, parce que les maladies viennent de nos peurs, c'est clair. Et quand on est dans le pardon, ben, peu à peu, on arrive à effacer les peurs. Et vraiment, hein, je peux le dire, parce que moi, je le vis depuis quelques années, vraiment, c'est ça. Vraiment, vraiment, vraiment. J'avais dit aussi que, et ça, c'est important, il n'est pas possible de pardonner à autrui. Il n'est pas possible de pardonner à quelqu'un. On ne pardonne pas à quelqu'un. Parce qu'en fait, ce qu'on voit chez l'autre, ce sont nos propres zones d'ombre. Ce sont nos propres défauts. On ne peut voir que ce qu'on a. On ne peut voir que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas. Ça veut dire que tous les défauts qu'on voit chez les autres, eh bien, en fait... Eh bien, c'est qu'ils sont à l'intérieur de nous, hein. Sinon on ne pourrait pas les voir, c'est clair. Mais c'est aussi valable pour les qualités. Hein, quand on aime un chanteur, un acteur, pour ses qualités de... Bref, on peut énumérer comme ça, tout plein de qualités, parce qu'on aime cet acteur ou cette actrice pour ses qualités. Ben c'est qu'on les a, ces qualités, sinon on ne pourrait pas les voir. Et si on dit ça à quelqu'un, bien souvent on dit, mais non, moi j'ai pas ces qualités, si. Au fond, c'est vraiment, c'est ça. Si on voit les qualités chez quelqu'un, c'est qu'on les a. Si on voit les défauts chez quelqu'un, c'est qu'on les a aussi. Sinon, on ne pourrait pas les voir. On ne pourrait pas les voir. Donc, pardonner à quelqu'un, en fait, c'est une illusion. Voilà. Et tout simplement, c'est une illusion. En fait c'est la seule chose possible, c'est de pardonner à nous-mêmes à travers la personne qui est en face de nous, à travers autrui. C'est ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est nous pardonner à nous. Il n'y a que ça. Pardonner à quelqu'un, c'est complètement une illusion. Pardonner, je te pardonne, ça ne veut rien dire. Par contre, au niveau de notre éducation judéo-chrétienne, oui, mais parce que bien sûr, on considère qu'il y a une victime et un coupable. Mais comme je l'ai dit, ça n'existe pas, les victimes et les coupables. Ça existe au plan de l'ego. Ah oui, là oui. Mais quand on s'élève et que l'ego n'a plus rien à dire, il n'y a plus de coupable, plus de victime. Il n'y a que ce que des gens, ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Hein ? Donc il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. On est tous dictés et guidés par nos mémoires. Donc quelqu'un qui est en face de nous, qui soi-disant a fait du mal et nous a porté tort, en fait il est dicté par ses mémoires. Lui, il y est pour rien, lui. Il ne fait que suivre ses mémoires. Donc on ne peut pas dire qu'il est coupable. Hein. Voilà. Et ça nous amène à observer les jugements qu'on porte sur les autres, bien sûr. Et j'avais mis dans un texte de Facebook, j'ai dit, faites donc l'exercice, c'est une excellente occasion pour mieux se connaître. Bien sûr. Bien sûr. Ah, les jugements. Les jugements, c'est quelque chose de terrible. Et en fait, si on observe bien quand on parle. D'ailleurs, autre exercice, ça serait de s'enregistrer quand on parle. Quand on parle à ses proches, quand on parle au travail, Et c'est bourré de jugements. Bourré de jugements. C'est fou, quoi. C'est bourré de jugements tout le temps. Et là, ça serait intéressant d'observer, de les noter et de voir ces jugements qu'on porte sur les autres, sur les choses, sur tout. Là, c'est une excellente occasion de mieux se connaître. Ça, c'est une bonne thérapie. Ouais. Ouais. Et oui. Et en fait, dans un petit texte que j'avais fait, là, c'est aussi quelque chose que je dis souvent dans les stages, c'est que l'ego, en fait, est à l'image de l'obscurité quand on est dans une pièce où tout est fermé. Si vous êtes dans une pièce où tout est noir, noir absolu, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a qu'une porte qui est complètement fermée, hein, et je dis, imaginez que vous êtes dans cette pièce, et dans la pièce à côté, vous savez qu'il y a une pièce très, très éclairée, très lumineuse. Et je dis, à ce moment-là, commencez à entrebâiller la porte. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On me dit, dans la pièce sombre, il y a de la lumière qui rentre. Elle n'est plus sombre, elle est un peu éclairée. Et alors je pose la question, et dans la pièce éclairée, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle est moins éclairée ? Elle est plus sombre ? Parce que le sombre aurait pu passer dans l'autre pièce. Et on me dit, mais non, hein, c'est ridicule de dire ça. Dans la pièce éclairée, elle est toujours éclairée, bien sûr. Hein ? Mais vous voyez, cette réflexion, personne ne se la pose. Personne ne réfléchit sur ce petit problème. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi dans la pièce éclairée, il n'y a pas de sombre ? Parce que le sombre n'existe pas. Le sombre n'existe pas. Il n'existe que par absence de lumière. De la même manière, nos peurs n'existent que par absence d'amour. C'est-à-dire que les peurs, c'est aussi une illusion. C'est une construction du mental, de notre ego. Tout simplement, les peurs n'existent pas. Par contre, l'amour existe partout. Mais quand on est dans cette pièce avec la porte fermée, regarde Cédric, cette image. Imagine cette personne qui est dans cette pièce sombre avec la main sur la poignée de la porte et qui entrouvre la porte, mais qui a peur de l'ouvrir en plein. C'est vraiment qu'on a peur de l'amour. Et on vit toute sa vie avec une porte légèrement entrebâillée. Alors quelquefois, il y en a qui arrivent à l'ouvrir en plein. Il y en a qui l'ouvrent en plein. Alors ceux-là, ils n'ont pas eu peur de l'amour, ils sont dans l'amour, ils vivent dans l'amour. Et ils ont compris que les peurs n'existent pas, il suffit juste de quoi faire, de lâcher la porte. Lâcher. Mais ce lâcher-là, pour beaucoup de gens, c'est trop difficile. Parce que les peurs, on est habitué. C'est la routine, c'est les habitudes. Et c'est la tradition, c'est l'éducation. L'éducation qui nous a appris à garder nos peurs. Hein, regarde tout ce que nous ont dit nos parents. La vie, c'est difficile. Il faut trimer pour gagner sa vie. Enfin bref, mille choses comme ça qui nous ont imprégnés, qui fait qu'on ne peut plus lâcher la poignée de la porte. Et on reste dans le sombre, un peu éclairé, un peu. C'est con quand même, non? Il suffit de lâcher.
Eh oui.
Pour que les peurs disparaissent. C'est lâcher. C'est tout simple. C'est ça. Et ça, c'est important de comprendre que le sombre n'existe pas. Les peurs n'existent que par absence d'amour. Et ouais. Et le sens de... Le but d'un enseignement spirituel, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs... On peut comme ça mettre... étaler comme ça, les uns après les autres, plusieurs objectifs, si tu veux. C'est quoi? Ben, c'est d'éliminer nos peurs, entre autres. Et quand on a éliminé toutes nos peurs, qu'on est dans l'amour, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? On a atteint l'illumination, là. Tu vois? Mais bien sûr que c'est pas facile. Moi qui le dis souvent, je m'aperçois que même pour moi-même, c'est pas facile. Mais c'est ça qu'on doit faire, c'est lâcher nos peurs. Hein, et le comprendre, déjà en prendre conscience. Voilà.
Ouais, c'est même Einstein qui disait que la nuit n'existe pas, c'est juste une absence de lumière.
Bah, bien entendu, mais il a fallu qu'il fasse plein d'années d'études pour comprendre ça. Non, je plaisante. Einstein, c'était un être éclairé.
Oui.
Donc, oui. C'est quand même un être pas ordinaire.
Surtout qu'en plus, il avait dit aussi, quand la technologie dépassera la communication humaine, on aura affaire à une génération de débiles. C'est vrai que...
Ah bon, tu crois qu'on y est là?
Ben, c'est vrai que quand on regarde le moindre truc, maintenant les gens ont le téléphone et tac, tout est filmé. D'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard par rapport à certains trucs d'actualité. Mais c'est vrai qu'on voit quand même que la technologie est extrêmement avancée, hein, parce que maintenant, on a des téléphones avec intelligence artificielle dedans. Il y a 20 ans de ça, on n'aurait jamais pensé qu'il allait avoir ce genre de choses, mais maintenant, c'est le cas.
Oh ben, c'est sûr,
ça avance beaucoup, mais c'est surtout qu'on voit maintenant que les communications humaines, il n'y en a pratiquement plus. C'est de moins en moins, et le peu qu'il y a, c'est soit des agressions verbales ou mal parler. Il n'y a plus vraiment les communications humaines comme on va dire dans le temps, quoi.
Ah, oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que je fais un stage justement le 24 et le 25 mars que j'appelle communication et relations. En fait, la communication, elle est à son maximum en ce moment. Ce qui manque, c'est la relation. Je fais le distinguo entre les deux mots. La communication, elle existe avec Internet. La communication, elle est multiple, elle est infinie. Par contre, il n'y a plus de relations. Les relations humaines, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais enfin, les relations humaines, elles ne sont plus au niveau qu'elles étaient il y a 30, 40 ans et davantage. Mmh. Je fais le distinguo, justement, c'est vrai, communication et relation. La communication, je dirais que c'est du niveau du mental, la relation, c'est au niveau du cœur, parce que c'est autre chose, quoi. Tu vois ? Je fais le distinguo entre ces deux termes. Voilà. Et je fais un stage, donc j'en reparle, tout ça me fait un peu de pub comme ça. Le 24 et 25 mars, je fais un stage sur la base de la PNL, mais aussi au Ho'oponopono, pour parler de la communication et de la relation. C'est très intéressant sur 2 jours. Je fais ça chez nous en Ariège.
D'accord.
Okay. Et oui, alors il y a une chose dont je voulais parler, c'était la manipulation.
Oui, aussi. Je vais juste un petit peu rappeler pour les personnes qui nous écoutent. Si vous voulez poser vos questions, surtout n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site de radioterrazen.net et vous cliquez sur le bouton « Poser une question », vous indiquez votre prénom ou pseudo, hein, c'est comme vous voulez, et votre question, et après je la poserai directement à Jean. Voilà, je te laisse la parole, hein, c'était juste pour...
Oui, d'accord. Oui, il y a une chose quand même qui m'interpelle depuis déjà longtemps, mais... C'est de plus en plus fort. La manipulation exercée à l'encontre de tous les gens, hein. Et comment on peut porter des jugements sur des groupes, sur des peuples, et considérer que soi-même on est des gens bien, quoi. On est des gentils et puis les méchants sont ailleurs, quoi. Et notamment, alors le pire, c'est quand on parle des nazis. Les nazis, c'est des monstres, et comment ça se fait que ils étaient tous des monstres, à partir de Hitler jusqu'aux plus petits soldats, ils ont fait tous des monstruosités. Mais comment c'est possible? Et de là à penser que ce peuple allemand, c'est un peuple de monstres, nous, on serait des gentils, il n'y a pas loin, quoi, de penser ça. En fait, c'est tout faux, ça. En fait, les monstres sont partout. Et là, il y a une expérience que j'ai vue en vidéo, mais ça faisait un moment que je la connaissais, mais je l'ai revue il n'y a pas longtemps, et vraiment, cette expérience, elle démontre vraiment que tout ça, c'est faux, et que les gens se trompent, et que les jugements qu'on porte comme ça, c'est vraiment, vraiment archi-faux. Cette expérience, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a été menée par des scientifiques américains, et voyons si je vais arriver à l'expliquer. Donc, on a pris un cobaye à qui on a expliqué qu'il allait participer à une expérience et dont le cobaye, c'était quelqu'un d'autre. Hein, donc, tu vois, voilà. Alors, à ce cobaye, on lui a dit, voilà, vous allez poser des questions, un certain nombre de questions à cette personne qui est là-bas, derrière la vitre, qui était attachée à une chaise et auquel on avait attaché des électrodes un peu partout sur le corps. Donc avec des fils de partout, tu sais. Et on lui dit, voilà, vous allez poser des questions, et à chaque fois que cette personne répondra mal, voilà, vous avez à votre disposition tout un échantillonnage, je crois que c'était de 0 jusqu'à 20, et vous allez appuyer sur le premier bouton, et là, il va avoir une décharge électrique peu forte, mais pour lui montrer qu'il a mal répondu. Et puis à la deuxième question, vous allez appuyer sur le deuxième bouton, s'il a mal répondu une nouvelle fois, mais la décharge est un petit peu plus forte. Et ainsi de suite. Et le 20e bouton, eh bien, c'est la mort. C'est-à-dire que la personne meurt. Tellement la décharge est très forte. D'accord ?
D'accord.
Donc on lui dit, voilà, vous allez commencer. Et on lui explique qu'il participe à une expérience dont le cobaye est celui qui va recevoir les questions. Et on lui dit jusqu'à quel point, pour lui donner le motiver pour participer à cette expérience, pour dire, voilà, on va voir, l'expérience va nous démontrer à quel point on peut supporter, etc., la souffrance. En réalité, c'est lui le cobaye. Parce que l'acteur, la personne qui est sur sa chaise, c'est un acteur qui va jouer, justement, alors qu'il ne reçoit aucune décharge, en réalité. Et il va jouer à chaque fois, à chaque décharge, il va jouer celui qui reçoit une décharge véritable et qui va exprimer une douleur. Tu comprends ?
D'accord, oui.
Et alors, on commence. Et alors, il y a quelqu'un à côté de notre cobaye, je l'appelle cobaye parce qu'on voit pour bien comprendre ce que c'est. Et il commence les questions. Alors, la première, il ne répond pas, boum, la deuxième, troisième, et il est déjà à la troisième ou la quatrième ou cinquième bouton. Et là, ça commence à être très fort. Il voit à travers la vitre. Lui, son cobaye, enfin la personne sur la chaise, avoir des secousses et puis souffrir à chaque secousse électrique qu'il envoie, hein. Et même il se dit, vous croyez qu'on peut continuer? Bon, il est un peu quand même, c'est pas un monstre, hein, c'est quelqu'un comme toi et moi, c'est quelqu'un vraiment un homme ordinaire qui est pas un monstre du tout, qui a jamais fait de prison, bon. Et il s'inquiète quand même de voir la personne souffrir. Et il y a quelqu'un, l'éducateur, enfin celui qui contrôle le jeu, il dit non, il faut continuer, il faut aller au bout de l'expérience. Et il continue, il arrive au 10e bouton, au 12e bouton, et puis l'autre souffre de plus en plus. Et des fois, il s'arrête, il dit mais quand même, là, il souffre trop. Non, il faut continuer l'expérience. Résultat, il est arrivé. Alors, 65% sont arrivés au bout de l'expérience, c'est-à-dire que la personne est morte. 65% de ces gens dont on dit qu'ils ne sont pas des monstres sont des gens normaux, ont été au bout de l'expérience parce qu'on leur a dit qu'il fallait aller au bout de l'expérience et eux-mêmes ont appuyé sur le bouton qui a tué la personne.
D'accord.
C'est extraordinaire.
Oui.
On a continué l'expérience. On a fait une expérience un tout petit peu différente. C'est-à-dire que le cobaye en question, qui pose des questions et qui appuie sur le bouton, c'est lui qui pose des questions, toujours, mais ça n'est pas lui qui appuie sur le bouton, c'est quelqu'un d'autre. Tu vois ? Donc, ce n'est pas lui qui fait le geste d'appuyer sur le bouton. Eh bien là, sur 100 personnes, il y en a eu 92 qui sont allées jusqu'au bout. C'est-à-dire 92 qui sont allées au bout de la torture horrible qu'on a infligée à la personne sur la chaise et qui est morte, finalement. Est-ce que ce n'est pas incroyable, une expérience comme ça ? Ça montre bien que les nazis, par exemple, dont on dit que c'était des monstres, ben oui, ce qu'on voit, c'était horrible. Mais en fait, ils n'étaient pas plus monstres que nous. Hein. Ça veut dire que n'importe lequel d'entre nous aurait été allemand à cette époque, eh bien, pour la plupart, on aurait agi de la même manière. C'est extraordinaire, quand même. Hein.
Et l'endoctrinement.
Mais bien sûr, cette expérience le démontre de façon précise, rigoureuse. Mais alors, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Ça veut dire que tous les jugements qu'on porte maintenant, quand on sait ça, ben il faut arrêter de porter des jugements. Et se dire que, eh bien, ces gens-là, ils ont été manipulés, conditionnés pour faire ce qu'ils ont fait. Mais en aucun cas, ils ne sont coupables. Tu vois ?
Mmh. Oui.
Mais c'est ça la réalité. C'est pour ça que les jugements qu'on porte, alors bon, les nazis, c'est un peu l'exemple extrême, parce que, bon, on a toujours ça en mémoire, et on voit toujours des images à la télé, les films, tout ça, bon. Mais on peut porter des jugements comme ça sur n'importe quel groupe, bref, un fan club de football, par exemple. Ben, c'est pareil, ils font des actions qui sont répréhensibles, ils cassent, c'est pas, ils sont manipulés aussi de la même manière. Et on les prendrait un par un, ces gens-là. Ils sont pas plus, ils sont pas plus délinquants, torturés ou monstres que qu'on pourrait l'être nous-mêmes. Tu vois ? Donc là, cette expérience, c'est intéressant de la faire connaître, d'en parler, parce que vraiment, ça démontre que les monstres ne sont pas là où on croit. Ils sont partout, les monstres. Et les monstres sont à l'intérieur de nous. Comme quoi, ça met en question beaucoup de choses. Hein.
Oui, voilà. ça me fait penser un peu au film Orange Mécanique.
Oui.
On fait devenir une personne, un tueur.
Oui, bien sûr. Et oui, ça c'est intéressant de comprendre ça. Alors, la manipulation, elle se fait à tous les niveaux. Par exemple, une chose qui m'amuse, mais qui m'agace un peu, je trouve, c'est les modes. Mais les modes, c'est une manipulation.
Oui.
Les modes, c'est une manipulation. Inconsciente. Mais la mode, t'imagines, c'est fou, quoi. La mode des voitures, par exemple. Bon, il y a une évolution comme ça, mais quand on voit une voiture d'il y a 40 ans, des fois, on la trouve moche. Mais il y a 40 ans, on l'a trouvée belle. Alors, c'est quoi ? Elle est moche ou elle est belle, la voiture ? C'est quoi ? Elle est moche ou elle est belle ? C'est quoi ? Où est la réalité là-dedans ? Tu vois ? Mm-hmm. Donc, c'est fonction d'une manipulation inconsciente. Mais les modes vestimentaires. Alors, les modes vestimentaires. Alors, moi, quand je vois des jeans troués et qui valent cher, j'ai vu dans les magasins, ils vendent des jeans déjà tout troués. Alors, ça, c'est extraordinaire.
Oui, c'est de plus en plus courant.
Alors là, ça dépasse tout. Et alors, une mode qui m'agace un peu, d'ailleurs, je ne sais pas si, Cédric, tu en fais pas partie.
Non.
C'est de voir les hommes, maintenant avec une barbe de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Alors, qui n'a plus sa barbe de... Ben voilà, si tu regardes la télé, il y a un groupe de 10 personnes, de 10 bonhommes, il y en a 8 qui ont une barbe maintenant. Oh punaise, alors c'est incroyable. Et alors, on va... La mode est telle, la manipulation est telle que ceux qui n'ont pas de barbe, on va les trouver ringards, on va les trouver, tu vois ?
Oui, c'est ça. Mais moi, en fait, j'ai un peu, oui, c'est cette barbe-là, mais c'est pas par mode, c'est parce que à chaque fois, il fallait toujours se raser. Moi, ça me gonflait. Alors en fait, j'ai trouvé un truc, c'est que je me coupe juste un peu et puis voilà, mais je reste comme ça, mais c'est pas un phénomène de mode, c'est parce que moi ça me plaît et ça va avec mon visage. Mais voilà,
j'ai rien à dire là-dessus, mais je juge pas ceux qui ont une barbe.
Oui, moi, ça, non mais effectivement c'est vrai qu'il y en a qui ont ce phénomène de mode. Bah,
oui,
par exemple,
mais
le tabac.
Il y a des gens qui avaient à 20 ans, ils avaient une barbe, ils ont toujours une barbe.
C'est ça.
Et j'en reconnais comme ça. C'est parfait. Moi-même, j'ai eu une grosse moustache à la gitane là, pendant un temps. J'ai eu aussi un bouc que je me suis dit, j'étais moche comme tout.
Mon père, c'était le collier.
Mais bon, parce que ça me plaisait comme ça a duré quelques mois. Et puis voilà. Maintenant, avoir une barbe, ça m'agacerait parce que je trouve que c'est pas propre. Mais peu importe, chacun fait comme il veut. Je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Mmh. Mais le phénomène mode fait que maintenant, même des vieux se laissent une barbe de 3 ou 4 jours alors qu'ils n'en avaient pas, qu'ils n'en avaient jamais eu. Et d'un coup, puisque tout le monde fait ça, alors il faut faire pareil.
C'est ça.
Mais c'est au niveau inconscient. Mmh. On arrive à trouver beau le fait d'avoir une barbe alors qu'il y a 10 ans, on ne trouvait pas ça beau. Mmh. Tu vois,
Oui.
En fait, c'est la manipulation. C'est toujours une manipulation.
Le tabac, ça a été pareil. Hein. Le tabac, c'est un phénomène de mode. Quand on fumait, c'était tendance. On faisait partie du clan. C'était bien. Et du coup, il fallait faire pareil pour adhérer au clan.
Oui, mais bien entendu. Et ça, c'est la mode. C'est ça, la mode.
C'est ça.
Et si tu n'es pas à la mode, tu n'es pas parti du groupe. Parce qu'il faut avoir les pantalons déchirés. Il faut avoir le pantalon qui tombe sur les fesses. Il faut avoir... voilà, c'est des trucs... Moi j'appelle ça de la manipulation.
Oui.
C'est de la manipulation. Elle est plus ou moins consciente ou inconsciente, mais c'est de la manipulation. Et les gens ne se rendent pas compte. Et ils foncent là-dedans. Hein. Bon, oui, voilà. Mais voilà, je voulais juste mettre le point là-dessus parce que. Et après ça, on porte des jugements. Hein.
Et c'est vrai que ce phénomène de manipulation se retrouve à tous les états. Hein. Ça peut être aussi bien dans. On va dire dans la famille, dans le milieu du travail, dans les connaissances, au niveau de l'État, au niveau de machin. Enfin voilà, ça touche toutes les couches sociales, tous les milieux. Il y a, voilà, alors après, il y a des degrés. Hein. Il y a aussi ceux qui sont vraiment qu'on rentre dans un cadre que là, c'est rencontré un peu comme maladie psychiatrique. Hein. Ce sont les manipulateurs à perversion narcissique. D'ailleurs, on avait Anne-Catherine Sabas à l'époque qui faisait des émissions, qui était psychologue. D'ailleurs, une émission qu'on peut retrouver, hein, qu'on avait fait justement avec elle, une soirée Tarazen, justement sur la manipulation. Mais bon, là, ça reste. Là, par contre, c'est une manipulation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit perverse. Parce que là, c'est pas une manipulation juste pour dire, hop, je veux avoir ça. Hop. Quelque part, on est tous manipulateurs. Quand on veut quelque chose, bah, on.
Oui.
Voilà, on arrondit. Mais c'est pas une manipulation dans le but malsaine. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit peu le distinguo entre le MPN et la manipulation, on va dire, un peu plus courante.
Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, bien sûr, bon, une maladie psychiatrique, c'est un peu différent. Mais les manipulations, les modes, en fait, elles ne sont pas lancées par hasard non plus.
Ben non.
Si on savait d'où venaient la plupart des modes comme ça qu'on lance, qu'elles soient vestimentaires, c'est toujours... Il y a des intérêts supérieurs qu'on ignore. Et si on le savait, on serait vraiment étonné. Alors, il y a toujours manipulation de pouvoir et d'argent. Et c'est toujours une manière de voir si les gens sont toujours esclaves. Parce que quand on est manipulé par la mode, quand on est comme ça pris par le souci de faire comme tout le monde, ben, il y a un mot qui est important pour moi, c'est le mot liberté. Eh bien, quand on est comme ça, on n'est plus libre. Il n'y a plus de liberté. On veut faire comme tout le monde, ben, on est plus libre de faire comme on a envie.
C'est ça.
Mais c'est ça la liberté. Mais les gens ne sont pas libres.
Non.
Et les gens ne sont pas libres.
Non.
Et c'est ça que j'aimerais aussi. J'aime bien expliquer aux gens. Essaye de trouver un état de liberté. Où est ta liberté? Les gens qui sont soumis à la mode, mais après, bien sûr que quand on est tellement manipulé, on ne s'en rend même plus compte. On croit que c'est comme ça qu'il faut faire parce que pour être bien, pour être beau, pour être. Enfin bref. On peut dire comme ça, énumérer tout plein de choses. Mais il n'y a plus de liberté. Parce qu'on ne sait plus, on arrive à ne plus savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour soi. Là, on fait pour les autres. On s'habille en la mode pour faire comme tout le monde et pour être vu. Là, Oui. Alors il y a le tatouage, il y a les piercings et tous ces trucs-là.
Tout ça,
tu sais, concourt à la même stratégie, quoi. Hein? Voilà, c'est tout.
Moi, dans ma tenue vestimentaire, je veux dire, je suis plutôt antisocial. Je m'habille comme j'ai envie, même s'il y en a qui veut dire qu'il s'habille comme un clodo, je m'en fous complètement. J'ai pas envie de coller à un groupe de personnes pour me faire accepter. Je préfère qu'on m'accepte tel que je suis plutôt que d'avoir un style vestimentaire, etc., pour coller à ce que les autres y veulent. Moi, c'est ce que je souhaite être. Mais pas, comment dire, c'est pas, ça revient à ce que tu dis, hein. Je veux pas être manipulé parce que les autres ou la société veut qu'on soit comme ça. Moi, ça, non, je veux être comme je suis.
Encore qu'il faut faire attention en disant ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est bien, mais en disant cela, faire bien attention de ne pas agir, faire le contraire de ce que tu vois, pour dire « moi, je suis pas comme tout le monde hein, », attention. C'est aller au fond de soi-même et dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me plaît vraiment, quoi? Et là, bon, pour ce qui est des tenues vestimentaires, bon, on va pas s'habiller comme un Indien ou comme... Bon, oui. On va s'habiller un peu comme tout le monde, quoi. Bon, c'est vrai que moi, je m'habille un peu... Je m'habille à l'économie, plutôt. Je regarde pas du tout comment je suis habillé. Et c'est mon épouse qui toujours me force à acheter pantalon, veste ou chemise. Bon, enfin, mais ça a toujours été comme ça, d'ailleurs, j'ai pas changé. Mais, et en fait, est-ce que je suis tout à fait libre? J'en sais rien encore. Hein. C'est ça, la liberté, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de soi. C'est ça, la vraie liberté. Hein. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet.
Et d'ailleurs, rien qu'avec le côté manipulation, on peut emboîter aussi sur ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Oui. Où il y a eu, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au courant, mais je pense que si, à part si on a des personnes d'autres pays, hein, outre-Atlantique, qui nous écoutent,
oui.
En France, donc il s'est passé un événement comment expliquer ça ? Les magasins, les supermarchés, en fait, ont fait une promo de pots de Nutella,
oui.
Ils l'ont passé à 1,40€. Et les gens, ça a été un peu comme le Black Friday. Hein. Les gens se sont jetés dessus. Pour avoir l'exemple, hein, ça fait un peu comme si on mettait la nourriture à des cochons. Ils se sont tous jetés dessus, quoi. Et ils ont jeté les cartons. Ils se sont même battus pour avoir les pots de Nutella. Alors qu'il y avait des agents de sécurité. Ils ont dit, ça ne sert à rien. C'est limité à 3 par personne. Il y en a qui avaient un sac cabas qui était rempli. Mais pourquoi faire? Pourquoi en avoir autant? Surtout que, bon, entre guillemets, le Nutella, quand on sait qu'il y a 56,3% de sucre, c'est pas quelque chose de nutritif. Moi, ça m'aurait moins choqué des gens qui se battent pour avoir des légumes parce qu'ils ont faim. Ça m'aurait moins choqué que pour un truc comme ça. Donc, quelque part, on voit le niveau de ce que tu dis, le niveau de manipulation, à quel point la société, le système nous a rendus accros et surtout un gros consommateur.
Oui, mais tu sais, la publicité n'est pas plus manipulateur que la publicité.
Oui, un matraquage, oui.
C'est un matraquage. La télévision, c'est un outil de manipulation. Tout est manipulation. Donc le Nutella, je ne trouve pas terrible, moi, ce goût-là. Le Nutella, ben, ça plaît, parce qu'on en parle tellement, et c'est comme si c'était un produit de luxe, là.
C'est ça, le phénomène de mode, encore.
Alors, les gens achètent ça par souci d'économie, je ne sais pas combien ça vaut le pot ordinaire, et tu as dit que ça voulait 1,40.
Non, ça c'était la promo. Il y a eu moins 70%, donc non, c'est presque près de 5€ quand même.
Ah oui, bon.
C'est pas si économique. Oui, c'est produit de luxe, ça c'est sûr.
Oui, mais c'est toujours... C'est toujours de la manipulation et les gens, ils savent même pas pourquoi ils font ça, quoi. Mmh. Ah, c'est comme quand il y a les soldes et tout le monde se rue pour acheter des trucs.
Oui, ça, oui.
Ça aussi, c'est de la manipulation.
Ouais. Bien que les soldes, c'est plus calme quand même. J'ai remarqué que les gens se jettent moins sur les soldes. Par contre, sur les Black Friday, là, c'est l'horreur.
Et parce que les gens ont moins d'argent rapidement, là, depuis 2-3 ans. Là, de plus en plus de gens qui sont dans la difficulté quand même. Hein, donc, maintenant, pour acheter des choses, ils y réfléchissent un petit peu. S'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus acheter. Mais les soldes, c'est une manipulation. Mais c'est une manipulation. Quand tu vois les gens envoyer ça ces dernières années, se ruer dès que les portes étaient ouvertes,
oui.
À se battre pour acheter des trucs, ça fait Moi, j'en avais les larmes aux yeux, tellement de tristesse à voir ça, quoi. Moi, je ressentais une tristesse énorme de voir ces gens se ruer comme des animaux, là, oui, pour acheter des choses dont, en fait, ils n'avaient pas vraiment besoin, quoi.
Voilà. C'est ça. Bah, les personnes qui prenaient, je te dis, un sac à bas, hein, donc tu vois à peu près la contenance, qui était rempli, tu le vois dans les vidéos, qui était rempli, donc je pense qu'il devait en avoir au moins 15 pots de Nutella de presque 1 kilo. Donc ça veut dire 15 kilos, enfin je sais pas, peut-être prendre des kilos, peut-être, je ne sais pas, mais...
Ben oui, écoute, voilà. Mais il faut les regarder avec amour, tu sais, et puis se dire, ben écoute... Ils prendront le temps d'évoluer, mais là, ils en sont à ce niveau-là, et puis c'est parfait comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça.
Mais en tout cas, ce qui est, entre guillemets, bien, c'est qu'on voit qu'il y a des gens quand même qui sont choqués de voir ça. Il y avait des gens, on l'entendait dans la vidéo, et il dit, mais ça me choque de voir ça. Il dit, mais il y avait même des gens, mais il dit, mais calmez-vous, ça ne sert à rien de vous jeter dessus, c'est 3 par personne, il y en aura, laissez-en pour tout le monde, enfin, partagez. Et il y en a, non, je m'en fous. Enfin. Il y en a, ils étaient comme ça, ils étaient estomaqués, quoi. Ils disaient, mais j'ai jamais vu ça. Et il y en a qui disaient, mais si on était en guerre, ils disent, mais qu'est-ce que ça serait ?
Qu'est-ce que ça serait ? Les gens vont se marcher dessus et puis pour avoir je sais pas quoi. Mais oui, bon. Oui, ça, c'est la nature humaine, tu sais. Mais
oui.
En fait, c'est pourquoi ? Parce que ces gens sont bourrés de peur. Tu sais, quand on est bourré de peur, on agit de cette manière. On agit de cette manière. C'est comme ça, quoi. Ouais.
Oui, c'est vrai. Après, que ces gens veulent manger ça, bon, qu'ils ne savent pas trop parce que ce qu'il y a dedans et tout ça, bon, encore, ça, je peux le comprendre. Mais c'est surtout d'aller dans l'excès de dire, je vais prendre tout ça pour, mais tu vas en faire quoi, quoi. Et ça se trouve, ça va être, la moitié va être périmée, tu vas faire quoi ? Tu vas le jeter.
Surtout... Oui, sur le moment, ils ont l'impression de faire des économies, de faire des affaires.
C'est ça. C'est ça.
C'est vrai que ceux qui font vraiment des vraies affaires ne vont pas acheter du Nutella, bien sûr.
Non, je pense pas.
Ils vont faire autre chose. Mais bon, laissons à ceux qui ont que les moyens de faire des affaires en achetant du Nutella, laissons-le faire ses affaires. Tu sais, il faut être indulgent. Il faut être indulgent et laisser à ces gens-là eh bien, cette possibilité d'acheter du Nutella. Puis voilà. Si c'est un moyen pour les rendre heureux pendant 5 minutes, ben c'est bien.
Mais c'est pas grave. Mais quelque part, c'est quand même aussi un indicateur qui nous montre ce que tu disais tout à l'heure, hein, que la manipulation, qu'on appelle manipulation de masse, est quand même bien présente et bien effective et efficace.
Ah ben, bien entendu, mais la manipulation, elle est énorme. On a un président de la République qui a été élu parce que le peuple a été manipulé. Ça a été fait dans des proportions énormes. Mais la manipulation a été énorme. C'était juste une manipulation.
Oui. Honnêtement, de mémoire, il ne me semble pas que déjà, par exemple, pour François Hollande, ça a été comme ça au niveau médiatique. Hein. Ça n'a pas été autant.
Non, mais il y a eu quelque chose aussi avec Hollande.
Oui.
Il fallait que ce soit lui qui soit élu, donc il ne fallait pas qu'il y ait de problème.
C'est ça. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai écouté les directs de François Asselineau, un peu qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube.
Oui.
Donc de ce mercredi et honnêtement ça a écouté parce que c'est vrai que il a carrément dénoncé beaucoup de choses. Bon, il a dit on a la certitude, il a dit on a la certitude que Macron est un dictateur. Voilà, ça sur ça il l'a dit clairement. Il a dit c'est surtout que il dit c'est que les télés, il a dit notamment TF1, il a descendu, hein, il a dit ce torchon médiatique. Je t'invite à l'écouter parce qu'il a vraiment dit les choses qui sont vraies. Hein. Et il a dit, on a des émissions débiles, des documentaires idiots, tout ça dans le but d'abrutir les gens. Et il a dit, ça fonctionne très bien. Et il a dit, moi, mon but, il a dit, si j'avais été président, il a dit, mon but aurait été déjà de nettoyer les écuries d'Ogias de façon à retrouver des programmes cultivants, divertissants et surtout qui permettent de rendre les gens... faire agrandir leur culture et surtout d'être plus intelligent.
Mais c'est plus libre de choisir leurs émissions.
Et c'est vrai que lui, à un moment, on lui avait posé des questions, qu'est-ce qu'il aimait comme côté littérature. Honnêtement, c'est quelqu'un de très instruit, il connaît énormément de choses. Si on comparait Macron, mais c'est même pas comparable, il y en a un, c'est le vide sidéral, mais lui, c'est, J'étais même estomaqué de tout le savoir qu'il a quand même. C'est énorme. Oui,
il est très cultivé, c'est vrai. Ah oui.
Il donnait des textes de référence par rapport au peuple indien, aussi chinois. Enfin, je veux dire, il connaît énormément de choses. Et il a dit, c'est même d'ailleurs la première qualité qu'un homme politique, un président devrait avoir. C'est avoir de la culture et connaître toutes les cultures qu'il y a sur Terre. Parce qu'il a dit qu'on va dans un pays, comme ça il a même fait référence, qu'à un moment Macron avait dit un truc, je ne sais plus dans quel pays, et que ça n'a pas du tout plu au peuple. Ça n'a pas du tout plu au peuple. D'ailleurs, ils ont même hurlé, enfin, tellement qu'il avait fait une critique, une petite blague, alors qu'en fait c'était une énorme insulte. Et il a dit ce genre de choses-là, ça nous cause des problèmes. Il dit, là, on a des problèmes avec tel et tel pays. Alors, je n'ai plus les noms des pays, mais il a dit tout ça parce que cette personne-là n'est pas cultivée, ne connaît rien.
Oui, bien sûr.
Et un petit mot que pour nous va peut-être être insignifiant, va peut-être être une énorme insulte pour l'autre. Voilà.
Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais nos présidents antérieurs étaient cultivés.
Oui.
Je pense à De Gaulle. De Gaulle,
oui, effectivement. Oui.
Il ne faisait pas honte quand il sortait à l'extérieur. Hein. Mmh. Et même Giscard non plus. Giscard, Pompidou aussi. Mitterrand aussi avait une bonne culture. Hein. Mmh. Je pense, oui. Mais oui, c'est vrai que Macron, bon, c'est vrai que...
Quelque part, il représente un peu ce que nous sommes actuellement au niveau peuple français.
Oui, bien sûr. Mais tu sais, il faut se dire une chose. S'il est là, c'est qu'il fallait qu'il soit là. Bon.
Oui.
Il fallait que les Français, de toute façon, les Français, ils méritent d'avoir Macron. Hein. Mmh. On ne peut pas avoir le président qu'on ne mérite pas. Hein. On mérite celui-là, mais voilà. On a eu Sarkozy, Hollande et Macron. C'est une espèce de suite. Hein. Une suite assez logique. Mmh. Une suite logique dans ce qui est, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans le pouvoir de la manipulation. Tu sais?
C'est ça, oui.
Et les gens sont tombés dans le piège. Mais il ne faut pas se lamenter. Hein. Macron, il est là. Bon, il fera ce qu'il pourra. Mais peut-être qu'on va aller au creux de la vague. Et c'est là qu'on va rebondir. Hein.
Oui, honnêtement, je pense qu'on va toucher le fond. Parce que là, c'est sûr et certain qu'avec tout ce qui se passe, on va toucher le fond. Et ce ne serait pas improbable qu'on ait le prochain président, que ce soit Asselineau, parce que, comme je te disais, sur cette interview qu'il a faite, il avait 2500 personnes qui le regardaient. Il m'a dit, j'ai pas eu ça depuis... Il m'a dit, pendant en temps électoral, il dit, je comprends. Mais il dit, là, on n'est plus en période électorale. Il a dit, je suis content, quelque part. Il a dit, mon message commence à percer.
Oui, c'est vrai. Je crois que... Il semble que je l'ai entendu ou je l'ai vu, je sais pas. S'il y avait un référendum maintenant, la majorité irait vers la sortie de l'Europe, hein, je crois.
Ah oui, oui, oui.
Mais c'est possible, ouais, c'est possible. Mais alors, est-ce qu'il sera le prochain président? Je sais pas. En tous les cas, moi, il me plaisait parce que j'avais fait son thème astrologique.
Oui, tu en avais parlé justement.
Il y avait une chose qui m'avait beaucoup plu, c'est que c'est un homme humain.
Mmh, c'est ça.
Il parle avec le cœur bien souvent, donc c'est ça qui m'avait intéressé. Donc c'est vrai, et puis en plus il a une grande culture, il est très intelligent.
Il ne tourne pas autour du pot pour dire les choses. Je trouve qu'il préfère dire les choses telles qu'elles sont, même si ça ne plaît pas. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit dans sa dernière émission, il préfère dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de tourner au pot et de rouler les gens dans la farine. Voilà. Il dit, maintenant on est dans une période où maintenant il faut dire les choses. Voilà.
Ah, mais on est rentré dans une période, mais on est rentré, ça fait un petit moment, mais là, de plus en plus, où les mensonges vont vraiment tomber. Hein.
Oui, ils commencent déjà. Hein. Ils commencent déjà.
Ah, là, on va avoir des révélations cette année qui vont faire drôlement mal.
Oui, au niveau États-Unis, hein. Et là, il va falloir se tenir au courant. A priori, il y a des arrestations qui vont être d'hommes très, très importants, même des anciens présidents qui vont se retrouver à Guantanamo. Donc, oui. A priori, ça promet du lourd dans le début d'année, hein. Donc à surveiller.
Et moi, je pense que sur le plan de la finance, des banques,
aussi,
tout ça,
aussi.
Il se pourrait bien qu'il se passe des choses. Il m'est venu il y a quelques jours l'idée l'image de l'Argentine. C'était en décembre 2001 ou début 2002, je ne sais plus. Un jour, les Argentins se sont réveillés un matin Et dans la nuit, toutes les banques avaient fermé et avaient vidé tout ce qu'il y avait dans les banques. Ils sont arrivés le matin, il n'y avait plus une banque d'ouverte. Et je me demandais si en France, ça pourrait arriver aussi, ça. Je sais pas, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si on va connaître ça, mais c'était terrible en Argentine. Ils ont mis des années à s'en remettre.
Oui, oui. Mais c'était qui Ah, c'est un ancien joueur de foot qui avait dit ça, de faire justement ça, de retirer tout son argent des banques. C'était Eric Cantona, voilà, cherchez ça. C'est lui qui avait parlé de faire ça, de retirer tout son argent des banques. Et il est dit là, par contre, là, ils nous écouteront.
Ben oui, effectivement. Moi, je pense que ça serait une chose intéressante si de conseiller ça aux gens. Parce que si les banques ferment, évidemment, l'argent qu'on aura eu dans les banques, ben, sera perdu. Donc déjà, avec cette idée-là, je pense que ça serait sage. Peut-être dans le BFM. Bon, écoute, j'en sais rien, mais il me semble qu'il se pourrait qu'il y ait des choses qui se passent cette année. Quoi.
Ouais.
Cette année va concrétiser un petit peu tout ce qui se préparait l'année dernière. Donc il y a des choses qui vont se passer, c'est certain.
Enfin, je pense que cette année, ça va être fort en rebondissement. Déjà, comme je t'ai dit, je pense que par le biais de Trump, tout ça, il y a les écuries d'OGS qui sont en train de se nettoyer là-bas aux États-Unis. Hein, qu'on voit le scandale qu'il y a eu à Hollywood pour tout ce qui était un peu pédophilie, hein, parce que ça commence déjà à sortir de plus en plus. Mais tous les attouchements, on pourrait dire viol, hein, parce que ça a été un peu ça, mais enfin, tout ce qui était de ce côté-là, ça a éclaté. Hein, la bulle commence à éclater et ça commence à venir en France. Hein.
Ben, c'est-à-dire que sur ce plan-là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont apparaître, mais quand on saura tout ce qui se passe depuis longtemps dans ce domaine-là, ce n'est pas seulement des metteurs en scène qui vont sauter, hein, sont des gens beaucoup plus importants.
C'est ça. Et là, comme je te disais, ce qui se passe, hein, parce qu'a priori, le FBI et tout ça, même au niveau FBI, il y a des choses qui vont tomber aussi, parce qu'a priori, il y a des hommes très haut placés qui étaient corrompus, forcément, niveau CIA a priori aussi. Donc a priori, là, il y a des choses qui commencent à... Il y en a un qui a mis le coup de pied dans la fourmilière et ça commence à sortir, quoi.
Oui, mais sur le plan de la pédophilie et ces choses-là, ce sont des choses les plus horribles qu'on peut imaginer.
Oui, bah déjà...
À mon avis, on va se diriger du côté de l'Angleterre aussi. Hein.
Oui, bah même aussi en France, parce qu'il ne faut pas se cacher, en France...
La Belgique, la Hollande, la Belgique était un peu... Mais l'Angleterre, à mon avis, c'est peut-être là où on va trouver les choses les plus lourdes. Alors, est-ce qu'elles vont apparaître cette année? Je ne sais pas. Mais quand ça va apparaître, là, ça va être très, très fort.
Oui, je pense aussi, à mon avis, ça va être... très fort en rebondissement et je te dis, ça va venir en France aussi hein, parce qu'avec ce que Assange avec le Pizzagate a donc dénoncé, du coup ça a déjà lancé un sacré pavé dans la mare, ils ont essayé de l'étouffer mais là, ça, je te dis, ce qui va se passer, c'est ça a été lancé par ça hein. Donc
nous verrons.
Voilà. Quelque part, c'est pas plus mal parce qu'au moins ça va faire tomber certains réseaux qui ne doivent plus être hein. C'est vrai que certains qui nous écoutent vont dire que ça s'écarte un petit peu de la spiritualité, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que quelque part, c'est dans l'environnement qui nous entoure aussi et dans le système dans lequel on est aussi. Parce que beaucoup, il y en a qui se disent « je suis éveillé, machin, nana, je suis spirituel, hop, du coup, je suis hors système ». Ben, je suis désolé, non. Parce que souvent, quand je leur dis, souvent, « tu payes tes impôts bah oui. Tu payes pour acheter ta nourriture bah oui. Bah, tu fais machin, nana, et en fait, je dis, mais t'es encore dans le système. Tu es peut-être effectivement réveillé par rapport à certaines choses, mais tu n'es pas totalement, t'es pas devenu Jésus-Christ, quoi. Voilà. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on remarque, et je le remarque de plus en plus, que des gens, ça y est, ils se rendent compte des choses qui se passent, un peu comme ce que tu disais, des gens qui ont le même savoir que tu as, hein, ce que tu disais, le pardon et tout ça. Et ben il y en a, ils se mettent carrément au-dessus de tout le monde et hop, ils disent voilà, moi je suis ça et je peux vous aider à vous sortir. Donc on retombe encore dans le rôle sauveur-victime, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et ça, le milieu New Age, ça je peux le dire, le milieu New Age, il y en a énormément. Je peux te dire que sur le nombre de messages que je reçois pour intervenir sur la radio, je suis obligé de faire un sacré tri. Je passe mon temps à faire ça, quoi.
Mais le mouvement New Age a été créé de toutes pièces par ce qu'on appelle les Illuminati.
C'est ça, oui. Elena Blavatsky.
C'est un mouvement qui a été créé pour faire diversion. On a l'impression que c'est la spiritualité. En fait, c'est une fausse spiritualité qui mène nulle part, comme la loi de l'attraction, comme toutes ces choses-là, quoi. Ça mène dans un mur, toujours. Donc, on n'en sort jamais. Ouais. Et là, qui parlent de l'abondance, 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 et puis eux-mêmes sont dans des difficultés financières. Donc, ouais, le New Age, c'est un mouvement dont il faut se faire très attention, quoi.
Oui, 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 il y a de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que, comme je dis, pour les personnes qui écoutent sur la radio, les intervenants qui sont donc sur ces émissions directes en soirée Terra Zen ou les émissions enregistrées, c'est vraiment des gens que je trie sur la volée. Alors, je peux me tromper, je suis humain, hein, je suis pas... voilà. Mais j'essaye de vraiment de voir un petit peu et puis je me fie à mon intuition. Si je quelque chose que je ne ressens pas, ben je m'éloigne, hein, sans porter de jugement. Je dis non, ça ne colle pas du tout à la charte éditoriale de la radio. Donc j'essaye vraiment d'avoir les gens les plus, entre guillemets, honnêtes et ceux qui font ça avec le cœur. Je pense que c'est ce qui est le plus important.
C'est la chose avec le cœur.
Voilà. Et ça se ressent. Honnêtement, quand quelqu'un fait un métier que c'est vraiment avec le cœur, qu'il n'y a pas un intérêt. Alors forcément, oui, l'argent, mais oui, il faut bien vivre. Hein. Tout travail mérite salaire. Mais oui. Honnêtement, quand quelqu'un fait ça avec le cœur, honnêtement, tu le sens direct. Tu le sens direct. Parce que tu te sens passionné par ce qu'il dit. Et honnêtement, je veux dire, j'ai eu des auteurs de livres qui fonctionnent plutôt bien, notamment une dame là, qui s'appelle Fabienne Maillefer, de la communication animale intuitive. Oui. A fait beaucoup de formation et tout ça, avant en faire une sur Bordeaux au mois prochain. Et honnêtement, voilà, quand elle parle, j'ai senti que c'était vraiment une personne qui était passionnée par ça, par les animaux, et que voilà, c'était pas un intérêt financier qui était derrière. C'était vraiment parce qu'elle aime ça. Elle a vraiment cette passion du cœur de faire ça.
Bien sûr. Oui. Voilà. Alors, en parlant d'intérêt financier, je vais mettre mon grain de sel. Je vais en parler un peu parce que tu sais qu'on est dans l'Ariège, on a acheté une grande maison qu'on a fait des travaux depuis 3 mois d'ailleurs, qui m'a valu une hernie, j'ai dû me faire opérer.
Oui.
Là, il y a 3 semaines.
Oui, tu m'avais expliqué, oui.
Donc on a fait des travaux, on a bien aménagé, donc on a plusieurs chambres qu'on va mettre à disposition, on a une salle d'atelier, de stage. Et on va lancer nos propres stages. Donc, j'ai le stage dont j'ai parlé tout à l'heure, le 24-25 mars.
Oui.
Et on va lancer des stages d'un style un peu nouveau, sur 4 jours, et qui vont s'appeler, écoute bien, sortir de l'illusion. Voilà. Donc, ça, c'est nos nouveaux stages que nous lançons cette année. Et là, bien sûr, on va parler que de spiritualité, mais enfin, bon, on va aborder plusieurs sujets. Comment sortir de l'illusion? Parce que je pense que ça va être bien, bien, bien adapté à ce qu'on va vivre cette année et les années qui suivent, tu vois, sortir de l'illusion.
Oui.
Voilà, donc ceux qui veulent venir à nos stages, ils peuvent venir m'écrire, me téléphoner et on pourra les inscrire avec plaisir.
D'accord.
Et les loger. Donc ils pourront être logés en même temps. Hein,
d'accord. Tu as une adresse internet où ils peuvent se renseigner ou...
Alors, ils peuvent aller sur Éveiller Santé, mon site Éveiller Santé. On a 2 sites actuellement. On en a supprimé 2, on en a fait un autre. On a Éveiller Santé et on a Eli Pono.
D'accord.
Eli-Pono. Et là, on est en train de faire le site pour la maison qu'on a appelée la maison du cèdre.
D'accord, oui, comme là.
Un cèdre splendide qui est là, donc c'est la maison du cèdre. Le site sera fait dans 3 semaines, à peu près à la fin du mois de février, ou mi-février, il sera fait. J'ai déjà fait les textes, tout ça. On va faire. Et donc, voilà. Donc, ça sera. Si on va sur Éveiller Santé, on aura déjà l'adresse.
D'accord.
C'est dans l'Ariège, à une ville qui s'appelle Lavelanet. C'est au pied du château de Montségur.
Ouais, un château cathare.
Voilà, exactement. Et donc, le château de Montségur, on le voit parfaitement de chez nous. On voit le pic de Saint-Barthélemy, c'est une vue sur les montagnes magnifique. Et puis en même temps, on est quasiment au centre de la ville, parce que la ville n'est pas très grande. On est très, très bien.
Et en plus, je peux dire pour les personnes, pas très loin non plus de Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, le Bugarac et tout ça. Hein.
On est à 3 quarts d'heure de Rennes-le-Château.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et plus près de la forêt de Nébias aussi. qui mérite le coup d'œil.
La couronne est bien si on est à 20 minutes.
Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que quand j'avais été dans le départ de Volnlot, hein, mon département de naissance, quand j'étais à la forêt de Nébias, j'ai voulu aller jusque voir mon Ségur. Bon, malheureusement, j'ai été pris un peu par le temps, mais oui, je savais que c'était pas très 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 loin en fait.
Voilà, et on est dans un endroit merveilleux. C'est super, quoi, magnifique. On est heureux comme tout. On a un parc de 5000 mètres. Très arboré, des jolis arbres, des coins pour la méditation, tout ça, c'est super. Voilà, d'accord. Sauf quand il pleut, bien sûr.
D'accord. Là, en fait, on a dépassé l'émission un peu de 5 minutes.
Oui.
Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on conclue cette émission du mois de janvier ?
Eh bien, je renouvelle toujours ce que je dis. J'insiste, c'est de vivre dans le pardon, dans la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qui nous arrive. Et l'acceptation, c'est tellement important. Et dans ce qu'on va connaître et vivre bientôt, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés qui vont apparaître, et bien je crois que si on est dans la responsabilité et l'acceptation, les choses passeront beaucoup plus facilement que ceux qui n'y sont pas. Voilà.
D'accord.
Voilà, ça, que je rabâche, que je répète toujours.
Ben oui, comme on dit, de toute façon, c'est un peu comme ça aussi que ça rentre, des fois.
Oui.
D'accord, et bien merci Jean pour ce mot de la fin. Et je te dis donc rendez-vous pour le mois de février. Hein, donc, comme je le rappelle, hein, c'est tous les derniers vendredis de chaque mois. Si je ne me trompe pas, ça doit être le 23 février, si mes souvenirs sont bons. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, donc je te dis donc au mois de février, et on va conclure cette émission parce que c'est vrai qu'on dépasse un petit peu le timing des 1 heure. Et surtout, je rappelle hein, donc, aux personnes qui nous écoutent, hein, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Là, je le répète pour le mot de la fin, mais surtout, l'émission, on parle avec Jean, mais c'est aussi un peu, entre guillemets, aussi votre émission. Hein, c'est le but est aussi d'amener la communication avec... vous, auditeurs, auditrices qui écoutez cette émission ou par le biais du direct ou par le biais de podcast, hein, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, depuis le site radioterrazen.net. Je vous souhaite donc une très très bonne soirée et je vous dis donc au mois de février. Et en attendant, prenez bien soin de vous.